Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble donc pour une petite semaine de batifolage poétique. Et je vous propose ce soir, tout d'abord, un texte de Jacques Prévert, Encore une fois sur le fleuve. Encore une fois sur le fleuve, le remorqueur de l'aube a poussé son cri. Et encore une fois le soleil se lève, le soleil libre et vagabond, qui aime à dormir au bord des rivières, sur la pierre, sous les ponts. Et comme la nuit au doux visage de lune tente de s'esquiver furtivement, le prodigieux clochard au réveil triomphant, le grand soleil paillard, bon enfant et souriant, plonge sa grande main chaude dans le décolleté de la nuit et d'un coup lui arrache sa belle robe du soir. Alors les réverbères, les misérables astres des pauvres chiens errants s'éteignent brusquement et c'est encore une fois le viol de la nuit. Les étoiles filantes tombant sur le trottoir s'éteignent à leur tour et dans les lambeaux du satin sanglant et noir surgit le petit jour. Le petit jour morné, fébrile et blême, et qui promène éperdument son petit corps de revenant empêtré dans son linceul gris, dans le placenta de la nuit. Alors arrive son grand frère, le grand jour, qui le balance à la Seine. Quelle famille! Et avec ça, le père dénaturé, le père soleil indifférent, qui, sans se soucier le moins du monde des avatars de ses enfants, se mire complaisamment dans les glaces du métro aérien qui traverse le pont d'Austerlitz, comme chaque matin, en portant approximativement le même nombre de créatures humaines de la rive droite à la rive gauche et de la rive gauche à la rive droite de la Seine. Il a tant de choses à faire, le soleil, et certaines de ces choses, tout de même, lui font beaucoup de peine. Par exemple, réveiller la lionne du jardin des plantes. Quelle sale besogne! Et comme il est désespéré et beau, et déchirant, inoubliable, le regard qu'elle a, en découvrant, comme chaque matin à son réveil, les épouvantables barreaux de l'épouvantable bêtise humaine. Les barreaux de sa cage oubliés dans son sommeil, et le soleil traverse à nouveau la Seine sur un pont dont il ne sera pas question ici à cause d'une invraisemblable statue de Sainte Geneviève veillant sur Paris. Et le soleil se promène dans l'île Saint-Louis, et il a beaucoup de belles et tendres choses à dire sur elle. Mais ce sont des choses secrètes entre l'île et lui. Et le voilà dans le quatrième. Et ça, c'est un coin qu'il aime, un quartier qu'il a même à la bonne. Et comme il était triste, le soleil, quand l'étoile jaune de la cruelle connerie humaine jetait son ombre, paraît-il, inhumaine, sur la plus belle rose de la rue des Rosiers. Elle s'appelait Sarah ou Rachel. Et son père était casquetier ou fourreur. Et il aimait beaucoup les harengs salés, et tout ce qu'on sait d'elle, c'est que le roi de Sicile l'aimait. Quand il sifflait dans ses doigts, la fenêtre s'ouvrait là où elle habitait, mais jamais plus elle n'ouvrira la fenêtre. La porte d'un wagon plombé, une fois pour toutes, s'est renfermée sur elle. Et le soleil vainement essaie d'oublier ces choses et il poursuit sa route, à nouveau attiré par la Seine, mais il s'arrête un instant rue de Jouy pour briller un peu, tout près de la rue François Miron, là où il y a une très sordide boutique de vêtements d'occasion, puis un coiffeur et un restaurant algérien, et puis en face des ruines des plâtras de démolition. Et le coiffeur, sur le pas de sa porte, contemple avec stupeur ce paysage ébréché. Et il jette un coup d'œil désespéré vers la rue Geoffroy-Lasnier, qui apparaît maintenant dans le soleil intacte et neuve, avec ses maisons des siècles passés. Parce que le soleil, il y a de cela des siècles, était au mieux avec Geoffroy-Lasnier. « Tu es un ami, lui disait-il. » Et jamais je ne te laisserai tomber. Et c'est pourquoi l'ombre heureuse et ensoleillée, l'ombre de Geoffroy-Lasnier, qui aimait le soleil et que le soleil aimait, s'en va chaque jour, que ce soit l'hiver ou l'été, par la rue du Grenier sur l'eau et par la rue des Bars jusqu'à la Seine. Et là, les ombres de ces tendres animaux broutent les doux chardons de l'au-delà et boivent l'eau paisible du souvenir heureux. Cependant qu'au-dessus d'eux, accoudé au parapet du pont Louis-Philippe, le loqueteux absurde et magnifique qu'on appelle le roi des ponts crache dans l'eau pour faire des ronds. Fasciné par la monotone splendeur de l'eau courante, de l'eau vivante, sans se soucier du qu'en dira-t-on, il ne cesse de cracher et... jusqu'à ce que la salive lui manque, offrant ainsi en hommage à sa vieille amie la Seine, quelque chose de sa vie, quelque chose de lui-même. Et il dit « La Seine est ma sœur, et comme je suis sorti un jour des entrailles de ma mère, elle jaillit chaque jour et sans arrêt des entrailles de la terre, et la terre, c'est la mère de ma mère. » Et la mort, c'est la mère de la terre. » Et il s'arrête de cracher un instant et il pense que la Seine va se jeter dans la mer et il trouve ça beau. Et il est content. Et son cœur bat comme autrefois. Et il se retrouve comme autrefois tout jeune avec une chemise propre qu'il enlevait pour faire l'amour. Et il regarde la Seine et il pense à elle, à la vie et à la mort et à l'amour. Et il crie « Oh, Seine, ne m'en veux pas si je me jette dans ton lit. C'est pas des choses à faire puisque je suis ton frère, mais pas d'histoire. Je t'aime alors, tu m'emmènes. Mais attention, quand nous arriverons là-bas tous les deux, là-bas à l'instant même qu'on ne connaît pas, là où l'eau déjà n'est plus douce, mais pas encore salée, n'oublie pas le roi des ponts. N'oublie pas ton vieil ami noyé, n'oublie pas le pauvre enfant de l'amour avili et abîmé, et dans les clameurs neuves de la mer, garde un instant ta tendre et douce voix pour me dire que tu penses à moi. » Mais il se jette à la flotte et les pompiers s'amènent. Enfin, voilà pour lui, comme on dit si simplement dans les mille et une nuits, et la Seine continue son chemin et passe sous le pont Saint-Michel, d'où l'on peut voir de loin l'archange et le démon et le bassin avec qui passe devant eux une vieille faiseuse d'ange, un boy scout malheureux et un triste et gros vieux monsieur qui a fait une misérable fortune dans les beurres et dans les œufs. Et celui-ci s'avance d'un pas lent vers la Seine en regardant les tours de Notre-Dame. Et cependant, ni l'église ni le fleuve ne l'intéressent, mais seulement la vieille boîte d'un bouquiniste. Et il s'arrête figé et fasciné devant l'image d'une petite fille couverte de papier glacé. Elle est en tablier noir et son tablier est relevé. Une religieuse aux yeux cernés la fouette et la cornette de la sœur est aussi blanche que les dessous de la fillette. Mais comme le bouquiniste regarde le vieux monsieur congestionné, celui-ci gêné détourne les yeux et laissant là le pauvre livre obscène, jette un coup d'œil innocent détaché vers l'autre rive de la Seine. Vers le quai des orfèvres dorés, là où la justice, qui habite un palais, gardé par de terrifiants poulets gris, juge et condamne la misère qui ose sortir de cet audit. Dérisoire et déplaisante parodie où le mensonge assermenté intime à la misère l'ordre de dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Et avec ça, dit la misère, faut-il vous l'envelopper ? Et voilà qu'elle jette dans la balance truquée la vérité de la misère, toute nue, ensanglantée. C'est ma fille, dit la misère. C'est ma petite dernière, c'est mon enfant trouvé. Elle est morte pendant les fêtes de Noël, après avoir longtemps erré auprès des marronniers glacés sur le quai là, à deux pas de chez vous. « Messieurs de la magistrature assise, levez-vous, et vous, messieurs de la magistrature debout, approchez-vous. Voyez cet enfant de 15 ans, voyez ses genoux maigres, ses tristes petits seins, ses pauvres cheveux roux, ses engelures aux pieds et ses crevasses aux mains. Voyez comme la douleur a ravagé ce visage enfantin. » Et vous, messieurs de la magistrature, couchés et bien bordés, réveillez-vous. Il ne s'agit pas d'une berceuse, d'une romance. Ne comptez pas sur moi pour chanter dans votre cour. Il ne s'agit pas d'un feuilleton, d'un mélodrame. Rien de sentimental, aucune histoire d'amour. Il s'agit simplement de la terreur et de la stupeur qui se peint sur le visage de l'enfant et qui serre atrocement le cœur de l'enfant à l'instant où l'enfant comprend qu'elle va avoir un petit enfant et qu'elle ne peut le dire à personne, pas même à sa mère qui ne l'aime plus depuis longtemps, et surtout pas à son père, puisque malencontreusement c'est le père qui est très précisément le père de cet enfant d'enfant. Sur un matelas, elle rêvait, et autour d'elle, ses frères et sœurs remuaient en dormant. Et la mère, contre le mur, ronflait désespérément. Enfin, toute la lyre, comme on dit en poésie. Le père qui travaille au hall et qui s'en retourne chez lui, après avoir poussé son diable dans tous les courants d'air de la nuit, et qui s'arrête un instant en poussant un soupir navré devant la porte d'un bordel fermé pour cause de haute moralité, et qui s'éloigne, avec dans ses yeux bleus et délavés la titubante petite lueur de l'appellation contrôlée. Et le voilà soudain. Ancien colonial, si ça vous intéresse, et réformé pour débilité mentale. Le voilà, plongé d'un seul coup dans la bienfaisante chaleur amicale et tropicale de la misérable promiscuité familiale. Et le lampion rouge de l'inceste en un instant prend feu dans la tête du géniteur. Il s'avance à tâtons vers sa fille et sa fille prend peur. Vous imaginez, hommes honnêtes, ce qu'on appelle le reste. Et pourquoi un soir, deux amoureux enlacés sur un banc dans les jardins du Vert Galant ont entendu un cri d'enfant si déchirant. J'étais là, quand la chose s'est passée, à côté du Pont Neuf, non loin d'un monument qu'on appelle la Monnaie. J'étais là quand elle s'est penchée, et c'est moi qui l'ai poussée, il n'y avait rien d'autre à faire, je suis la misère, je fais mon métier. Et la scène a fait de même, quand elle a refermé sur elle son bras fraternel. Fraternel, parfaitement. Fraternité, égalité, liberté, c'est parfait. Oh, bienveillante misère, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Le ministère public qui vient de se lever, la main sur le cœur, l'autre bras aux cieux, le cornet acoustique à l'oreille et toutes les larmes de son corps aux yeux réclament avec une émotion non dissimulée l'élargissement de la misère. C'est-à-dire en langage clair et vu le cas d'urgence, urgence et de nécessaire nécessité, sa mise en liberté provisoire pour durée illimitée. Et ainsi, messieurs, justice sera faite, attendu que... Et comme nous sommes restés longtemps serrés l'un contre l'autre tout près du pont de la Concorde, rappelle-toi, nous écoutions ensemble résonner dans la nuit le doux souvenir des marteaux de l'été, quand l'été matinal se hâte d'assembler les charpentes flottantes du décor oriental des grands bains de lignée. Rappelle-toi, tu étais couché sur un sac de ciment, de sa grande patte rousse nonchalamment les reins et les fesses d'une femme qui s'arrête brusquement, songeant à son amant, et regarde la scène en frissonnant.
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons donc à notre batifolage poétique après cette pause musicale. Et voici donc, pour continuer, quelques poèmes de Arthur Rimbaud. Ophélie. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement. Couché en ses longs voiles. On entend dans le bois lointain des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Le nénuphar froissé soupire autour d'elle, elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. c'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mères folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle, tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète te dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis et qu'il a vues sur l'eau, couchées en ses longs voiles. La blanche Ophélia flottait comme un grand lys. À la musique. Place de la Gare à Charleville. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames auprès desquelles vont officieux cornac celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes fort sérieusement discutent les traités puis prisent en argent et reprennent en somme. Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son honingue d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts ricanent les voyous. Et rendu amoureux par le chant des trombones, très naïfs et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjoler les bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant. Sous les marronniers verts, les alertes fillettes, elles le savent bien, et tournent en riant vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot. Je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodé de mèches folles. Je suis sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas. Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs rêves. Les effarés. Noirs dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leurs culs en rond. À genoux, cinq petits misères regardent le boulanger faire le lourd pain rond. Ils écoutent le bon pain cuire, le boulanger au gras sourire chante un vieillard. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillant et jaune, on sort le pain, quand sous les poutres enfumées chantent les croûtes parfumées et les grillons, quand ce truchot souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon, ils se ressentent si bien vivre, les pauvres petits pleins de givre, qu'ils sont là tous, collant leurs petits museaux roses au grillage, chantant des choses entre les trous, mais bien bas, comme une prière, repliés vers cette lumière du ciel rouvert, si fort, qu'ils crèvent leurs culottes et que leur linge blanc tremblote au vent d'hiver. Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin, l'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin. 17 ans. On se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou robinsonne à travers les romans lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir, a daigné vous sourire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs et de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Les poètes de 7 ans. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant, des tics noirs, quelques traits, semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings haleines, et dans ses yeux fermés, voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille et livrant ses narines. Quand lavait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers, pitié. Ses enfants seuls étaient ses familiers qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant leurs maigres doigts jaunes et noirs debout sous des appis puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait. Les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle, en robe d'Indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos, en secouant des tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle, meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve noir, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs en 3 roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand, dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman, sans cesse médité, plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées de fleurs de chair, au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul et couché sur des pièces de toile crues. Et pressentant violemment la voile.
Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir cette balade poétique que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.